Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse en ce beau week-end de l'Ascension. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef culture à l'Express, en duplex de Cannes. Comment ça va la petite santé?
Eh bien écoutez, la petite santé se fatigue un peu, mais bon, c'est la fin, donc on va revenir à Paris pour dormir en fait.
Allez, on vous retrouve en fin d'émission pour votre petite mythologie d'un objet du quotidien. Et il sera question d'un objet de circonstance, Festival de Cannes oblige.
Ben oui, puisque c'est le festival, je vais évidemment vous parler de palmes, mais puisque la Méditerranée nous tend les bras, il va être également question de tuba et de masques.
A tout à l'heure, Éric Libiot. Comme désormais chaque dernier vendredi du mois, je vous propose de partager une sélection de livres en tout genre qui font du bien. Et ce matin, des livres pour rire ou à tout le moins sourire. Des romans de Tom Sharpe, David Lodge, Fred Vargas, en passant par Franquin, Reiser ou Sempé. Une série d'ouvrages indispensables pour fuir l'esprit de sérieux et adresser un bras d'honneur à tous ceux qui veulent nous terroriser. Et vous, quels sont les livres qui vous font rire ou sourire volontairement ou involontairement? Contactez-nous par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Clarisse et Francesca attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis en l'absence de Guillemette Odissino, la vie des films est assurée cette semaine par la très bonne camarade Marie Sauvion, qui tirera quelques leçons de vie d'un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Avec nous ce matin pour nous faire partager quelques ouvrages qui font rire ou sourire, quatre mousquetaires de la Gaudriole. Bonjour. Bonjour Christine Appé-Edouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes responsable des pages livres du mensuel Psychologie Magazine et l'auteur chez Marabout de ces livres qui nous font du bien. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Journaliste littéraire à la rédaction de France Inter. Si vous aimez la littérature américaine, eh bien je vous conseille de podcaster sa chronique. Ça s'appelle Un livre américain
pour l'été.
Et ça existe toujours en podcast. Bonjour Christine Siméon.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Également journaliste à la rédaction de France Inter. J'adore votre haut vert. Comment on pourrait le qualifier? Émeraude?
Oui, émeraude.
Ouais, très très beau.
Très bien.
Bonjour Baptiste Oliger.
Bonjour Ali.
Tout nouveau rédacteur en chef du mensuel Lire, bravo oui. Pour la promotion, avec à la une ce mois-ci, Ce que la littérature doit aux femmes, de Jane Austen à, Elena,
sujet.
À Elena Ferrant.
Voilà. Absolument, et un dossier livre de poche pour votre été.
Alors autour de la table, quand ça ne va pas très fort, quand vous avez envie de rester sous la couette en pyjama, vous avez plutôt envie d'un livre qui surfe sur vos bleus à l'âme ou bien d'un livre qui vous fait franchement marrer, Christine Appé-Edouel? ça tombe sur vous.
Oui, oh bah oui bah tant pis, j'assume. Ça dépend, mais c'est vrai qu'un livre qui me fait franchement marrer, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous savez que Jean-Louis Fournier a une formule géniale, il dit « Le rire, c'est un super désinfectant, c'est de la pyrolyse, avec lui, vous brûlez les saloperies ». Et ben voilà la définition.
Baptiste Ligier, est-ce qu'un livre drôle est indiqué en cas de blues pour vous?
Absolument pas, hein. C'est comme, ça peut être comme un film, hein, pour se mettre de bonne humeur, un bon petit Bergman et on commence à rigoler. Non, plus sérieusement, tout dépend aussi de notre humeur générale. Quelle est, à un moment donné, telle ou telle ambiance qui peut nous correspondre? C'est en ça la véritable question. Et donc voilà, le menu est très large.
Ilana Mor-Youssef.
Alors non, c'est pas forcément un livre qui fait rire. D'ailleurs, franchement, on a eu du mal à trouver tous autour de la table des livres qui font rire.
Ou sourire,
oui. C'était voilà. Mais je me souviens d'un professeur de français quand j'étais au collège qui disait ben voilà, quand vous êtes malade, lisez Queneau. Et voilà, j'ai toujours suivi ce conseil depuis et je m'en trouve très bien.
Christine Siméon.
Moi, c'est les livres méchants et cruels qui me font du bien et qui me font rire.
Vous reconnaissez bien.
En fait, j'adore quand ça cartonne, quand il y a du sang, quand c'est méchant. Et vous allez voir d'ailleurs dans la sélection que j'ai choisie sur Cher Monstre, il y a des petits morceaux de cruauté absolument délicieux.
Alors, Baptiste Ligier, je ne sais pas vous, mais la plupart des ouvrages classés au rayon humour dans les librairies me font rarement marrer.
Oui, parce qu'il y a une démarche absolument volontariste. C'est ça, ceci est de l'humour. Donc ce sont des objets qui doivent vous forcer à rire en quelque sorte. Mais c'est d'une certaine façon nier le libre arbitre du lecteur. On a bien le droit de rire de ce que l'on veut, tout simplement.
C'est la pelle et doigts, ça vous fait le même effet là, ces rayons d'humour dans les librairies?
Ah bah oui. Et puis je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est vraiment super dur de trouver des livres drôles, vraiment drôles.
Oui, mais Christine en fait, Siméon. Ils n'ont pas besoin d'être drôles.
Mais
moi
non,
je trouve
ça.
Que l'important important, c'est moi, c'est ce qui fait de l'effet, c'est quand j'ai l'impression que ça, qu'on se moque de moi, en fait, et que ça me tourne en dérision, dans mes travers, dans mes espoirs même, etc. Et je trouve que c'est là aussi que ça marche.
Par exemple, pour moi, l'un des livres les plus drôles que j'ai lu, c'est par exemple Extension du domaine de la lutte de Houellebecq. Bon, ben pour certains, ben voilà, c'est pas le cas, mais
il y a des gens qui c'est un livre totalement, mais c'est accablant. On le lit, mais on a envie de mourir après.
Ah non, moi, ça me fait rire, ça me fait. Non, mais je vous assure.
Toute la problématique est là. On est dans la subjectivité du lecteur et j'allais dire sa liberté dans sa manière de recevoir un livre, de pouvoir l'interpréter et voilà et de se l'approprier.
Il y a des auteurs comiques, des auteurs à ressorts comiques dissimulés derrière leur désespoir en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est l'effet de surprise aussi qui joue beaucoup.
Alors on évoque ce matin une sélection, un panel d'ouvrages plutôt drôle, mais il existe tout un tas de livres involontairement comiques. Baptiste Liget, ça peut être assez jouissif de lire ce genre d'ouvrage. Vous, par exemple, je sais que l'amant de Marguerite Duras, ça provoque chez vous des fous rires nerveux.
Absolument. Non, je ne vais pas absolument pas nier le talent et l'importance de Marguerite Duras, mais je veux insister là-dessus. Encore une fois, on peut lire un livre tout à fait sérieusement et pour la beauté de la plume de l'auteur, pour son univers, pour sa manière de raconter une histoire, mais on peut aussi, dans un même temps, parce qu'en plus j'adore Duras, la lire de manière un petit peu différente, décalée. Je vous parlais des films de Bergman, c'est absolument la même chose. Se moquer des tics d'un auteur et imaginer ce que ça peut faire, et moi ça me provoque un fou rire nerveux, et pourquoi pas, ça n'a rien à voir avec le respect qu'on peut avoir pour une œuvre.
En tout cas, ça fait pas rire Ilana Morius, ça fait vous regarde. Il y a un regard là d'une noirceur.
Ne me dites pas, Ilana, qu'il n'y a pas d'autres auteurs qui vous font rire comme ça au second degré.
Mais Baptiste, vous m'ouvrez des perspectives, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé, en dehors des détracteurs de Duras, chez qui j'entends en effet beaucoup ce genre de discours, j'avais jamais pensé qu'on pouvait à la fois admirer l'écrivain qu'elle est et en même temps éclater de rire en lisant l'un de ses livres.
Mais non,
oui, voilà, c'est une découverte pour moi.
Éric Libiot depuis Cannes, à propos de tous ces ouvrages involontairement drôles.
Ah, moi, je suis un grand fan du signifiant imaginaire de Christian Metz, qui est un sémiologue du cinéma. Mais comme souvent, les grandes thèses et les grandes réflexions intellectuelles, artistiques, comme les écrits sur la danse ou sur l'architecture, ça me fait hurler de rire, parce que je trouve que c'est de la posture. Et le signifiant imaginaire, c'est un grand moment. Je lisais ça quand j'étais à la fac et on se bidonnait à se lire des grands passages, parce que c'est du grand n'importe quoi. Et
Baptiste Liget.
Ah bah, à ce titre, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Eric. Il faut relire le livre vient de ressortir en poche, le Roland Barthes sans peine de Rambaud et Burnier qui vient de ressortir en point, où on reprend où les deux auteurs sont amusés à reprendre tous les gimmicks, tous les tics du vénérable Roland Barthes. C'est un régal, voilà, je vous assure.
Christine Siméon.
Je suis sûre que le rapport annuel d'une entreprise comme Total pourrait nous faire franchement rire, en fait.
Et pourquoi pas?
Parce que j'imagine des tournures pour essayer de maquiller la réalité subtilement.
Mais c'est la grande force des pastiches, qui savent trouver les tics d'un auteur et le tourner et s'en saisir. Mais c'est génial, à la manière d'eux, c'est un classique.
Allez, n'hésitez pas à nous dire quels sont les ouvrages qui vous font rire ou sourire dans tous les domaines et dans tous les genres. 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Et en l'absence provisoire de Guillemette Audicino, c'est Marie Sauvion qui nous propose ce matin La vie des films.
La vie des films
a été formidable, tu sais.
Allez, faut pas rester là, voyons, t'en ailles.
Va
surveiller la fricassée.
Sur France Inter.
Ce qui compte, c'est que ça se soit bien terminé.
Bonjour Marie Sauvion.
Mais bonjour.
Que l'on retrouve régulièrement dans Le Cercle, diffusé sur Canal Plus Cinéma et présenté par Augustin Trapenard. Alors Marie Sauvion, vous avez tiré quelques leçons de vie d'Un éléphant, ça trompe énormément, d'Yves Robert, qui est sorti en 1976 avec Annie Dupéré, Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux, récemment décédé.
Après avoir attisé ma gourmandise par ses silences, Charlotte m'avait dit en une seconde ce que je n'avais su lui dire en un mois. Viens. Impératif admirable qui venait de mettre le feu à ma vie. Cependant, l'âme masculine est d'une telle laideur que je ne songeais pas un instant à me séparer de Marthe, même en lui abandonnant une pension égale à 35,8% de mon salaire, une fois défalqués les avantages sociaux, comme d'autres eussent fait à ma place.
Mon Dieu, que ça fait du bien, la voix de Jean Rochefort.
Mais toujours, toujours. Et la voix off est absolument merveilleuse. Alors, le film a été écrit par Jean-Loup Dabadie et Yves Robert. Et la qualité des dialogues, et notamment de cette voix off qui est très littéraire, très désuète, ça marche à tous les coups. Alors, j'ai choisi ce film, j'aurais pu en choisir mille autres, hein, les Marx Brothers, Woody Allen, Jacques Tati, même Problemos d'Éric Judor qui est sorti il y a quelques semaines. Et puis j'ai choisi mon film doudou, j'ai choisi celui que je vois minimum une fois par an, celui, vous savez, quand vous tombez sur un film au milieu de la nuit en zappant sur le câble et vous vous dites, ah, tant pis, même s'il y a école demain, je reste. Ben voilà, et ben c'est ça. C'est ce que je vis avec ce film-là, qui était un buddy movie avant l'heure, la version comique, en fait, de Vincent François, Paul et les autres. Alors, pourquoi je les aime, Étienne, Daniel, Simon, Bouly, sans oublier Marthe, évidemment. Je les aime parce que c'est ça qui me fait rire. En fait, c'est la petitesse de l'humain dans des petits drames bourgeois. Alors, ça repose, hein. On est en 76, la France est giscardienne. Tout le monde a les moyens de se loger à Paris. Tout le monde a un job, hein. Et le drame qu'on vit, c'est comment réussir à tromper sa femme sans se faire gauler. Alors, c'est, je dirais, la leçon à tirer du film. Déjà, vous reprenez pas l'équitation quand vous aimez pas les chevaux. Vous n'achetez pas un costume en velours rouge chez Renoma avec des pattes d'eff et vous ne changez pas trop vos habitudes. Ça, c'est la petite leçon du film. Et ce qui les lie, ses copains de toujours, ses copains à la vie, à la mort, c'est le tennis. Alors, ça donne des phrases comme « T'as jamais su lifter et je t'ai personnellement demandé de ne pas lober cette semaine. » Moi, j'adore ça, évidemment, je me régale. Donc, ce qui les lie, c'est le tennis et les femmes. Avec cette déclaration donc tout à fait paternaliste et misérable de Bouly, en parlant de sa femme, Marie-Ange, elle a les mômes, la maison, son transistor. J'aime pas les formules, mais c'est une femme heureuse. Évidemment, la séquence d'après, Marie-Ange, elle a pris son transistor, les mômes et les meubles et elle a vidé la baraque. Et donc, on est confronté comme ça, voilà, à des petites choses. Alors, sur l'homosexualité aussi, bah, c'est un film que Cyril Hanouna pourrait regarder, par exemple, hein, ce serait une bonne leçon. Et la perfection de ce film-là, ce que ça raconte, voilà, d'une France qu'on peut aujourd'hui fantasmer un peu et réinventer en se disant qu'est-ce que c'était sympa, la France des années Giscard, on s'en fout, c'est très lointain. Et puis, ce que ça raconte de l'amitié, c'est-à-dire que, voilà, c'est une bande de copains et je suis sûre que nos auditeurs ou vous-même, vous avez ça avec des copines, des copains. C'est ceux que vous appelez à 4h du mat pour, je vais pas dire enterrer un cadavre, on n'enterre pas des cadavres tous les jours, mais enfin disons, voilà, pour aller boire un coup quand ça va pas. Et c'est fait avec une élégance, c'est fait avec une drôlerie, voilà. Et vous entendez Jean Rochefort parlant d'un type qui est pas en très bon état. Il faisait beaucoup plus vieux que son âge. Il avait ses raisons. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est l'humanité, la tendresse. C'est la comédie française qui se moque de personne. Voilà, on va pas se moquer des Roms, on va se moquer de soi. Et pour moi, la plus grande forme d'humour, ce qui me fait toujours le plus rire, c'est quand j'ai l'impression effectivement de me moquer de moi, de me moquer de mes travers, et non pas des minorités et des cibles faciles.
Bah dis donc, Marie Sauvion va me donner envie de revoir Un éléphant, ça trompe énormément d'Yves Robert. Merci Marie Sauvion, vous restez bien sûr avec nous. La vie des films, c'est tous les vendredis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par le trio burlesque Laure Grand Besançon, Lorraine Bess et Clara Marliot. Et c'est réalisé par celle qui manie l'humour bordelais à merveille, Claire Destacan.
Tu mens, tout me dit comment tu te tais. Tout me dit que c'est trop troublant pour ne pas être vrai. Tout en toi dit que je te plais. Il faut sauter dans le grand bain. Tout en toi m'a percuté. C'est un foutu coup du destin. Dis-moi ton secret. Je le cacherai sous mon lit. Je le protégerai comme un oiseau défend son. Car moi je n'oserai jamais. Il suffit d'un instant, clap de fin, le train s'est barré. Dis-moi ton secret. Je le cacherai sous mon lit. Je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Dis-moi ton secret. Je les cacherai sous mon lit. Me tente à en trembler, tous mes signaux sont envoyés. Ne perdons pas notre temps, sois un homme et ferme ma portée. Tape sur l'épaule du destin, il te mènera
jusqu'à moi, laisse-le te guider, il te jettera dans mes bras. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon lit, je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Dis-moi tes secrets, je les cacherai sous mon lit.
Olivia Ruiz, dis-moi ton secret.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h22 et ce matin, je vous propose une sélection d'ouvrages qui font du bien, des livres qui font rire ou sourire en compagnie des journalistes Christina Pelé-Douel, Ilana Mor-Youssef, Baptiste Liger et Christine Simeone.
Plus les choses sont tragiques, j'ai envie de dire, plus ça doit être drôle. Quand j'étais gosse, je jouais avec des Lego, maintenant je joue avec des mots. Et c'est formidable, les mots.
Et on a le droit de jouer avec des mots quand il s'agit de raconter la femme qu'on aime et qui vient de mourir ?
On a le droit de tout sur Terre. On a le droit de tout. On fait de l'humour sur tout. On doit faire de l'humour sur tout pour survivre. Et plus les choses sont tragiques, j'ai envie de dire, plus ça doit être drôle. Parce que forcément, on a en face de soi quelque chose de terrible. Et je trouve que réussir tout d'un coup à détendre l'atmosphère et puis à éclairer un peu les ténèbres, c'est important parce que la vie de tout le monde est difficile. Je suis pas le seul qui ait des emmerdements. Hein.
L'écrivain Jean-Louis Fournier sur France Inter le 21 décembre 2011. Premier livre de la sélection en ce vendredi où les enfants n'ont pas école. C'est justement un ouvrage de Jean-Louis Fournier, Christine Lapelle-Edouel. On pourrait, pourquoi pas, en ce vendredi de l'Ascension, réviser sa grammaire avec Jean-Louis Fournier.
Bah oui.
Vous avez choisi sa fameuse grammaire française impertinente publiée chez Payot. Et je cite juste l'exergue du livre. La grammaire française est impertinente et l'ensemble des règles à suivre pour dire et écrire correctement des bêtises, des grossièretés et quelques horreurs. Une grammaire qui donne peut-être le mauvais exemple, mais toujours la bonne règle.
Oui, et toujours à bon escient. Mmh. Je dirais mauvais exemple à bon escient. Mmh. Oui, mais Fournier, c'est un génie, hein, on le sait. Où on va papa, on savait que c'était extraordinaire. Mais c'est vrai que la grammaire française est impertinente, on la connaît un petit peu moins bien. C'est un livre assez ancien. Il a continué avec d'autres manuels tout aussi rigolos après. Les sciences naturelles, la géographie. Et alors, ce qui est génial avec lui, c'est ce sens de la dérision et le décalage. Fournier, c'est le roi du décalage et de l'humour noir. Voilà. Donc, il est toujours un pas de côté, et c'est évidemment ça qui est irrésistible, quoi, qui vous fait rire. Alors, la grammaire française de Fournier, on peut l'apprendre, on peut en effet réviser ses conjugaisons, l'accord des participes, c'est très sérieux. Et les exemples, non mais les conjugaisons choisies par exemple, non mais franchement.
Vous avez des exemples?
Bah oui, le verbe vomir à tous les temps. Et alors, je vais vous raconter une anecdote. Je me suis servie de la grammaire de Fournier pour faire travailler mes enfants. Et je peux vous dire que sur un certain nombre de choses, ils étaient incollables. Le verbe, enfin le haïr avec comme exemple, je hais mes parents, ça a marché, mais alors à tous les coups. Et là, je vous donne un exemple au hasard, c'est la conjugaison du verbe choir. Alors, commentaire de Fournier, donc on peut apprendre le verbe choir, et le verbe choir est un verbe défectif, donc compliqué. Le verbe choir présente des difficultés de conjugaison et de nombreuses formes inusitées. Aussi, nous conseillons aux élèves l'utilisation du verbe se casser la gueule, qui a un sens équivalent. Moi, je ne peux pas résister à ça. Et puis, les pronoms, ah oui, alors là, devant une voyelle, se devient C apostrophe. Ça est une abréviation de cela. On l'utilise dans le langage familier. Exemple. Ça suffit vos conneries, dit le secrétaire perpétuel de l'Académie aux académiciens. C'est bon, on peut prendre au hasard comme ça. C'est un chef-d'œuvre.
Grammaire française et impertinente de Jean-Louis Fournier chez Payot. Ilana Mourioussef, les exercices de style de Raymond Queneau provoquent chez vous un sourire façon Mona Lisa.
Ah non, plus que ça.
Plus même. Que ça même.
Oui, même des éclats de rire francs au fil des pages. Alors peut-être qu'on peut présenter en deux mots ces exercices de style. C'est en fait la même histoire. C'est l'histoire d'un type qui monte dans un bus et qui
le bus S.
Le bus S à l'époque, il s'appelait comme ça, et qui voit un jeune homme très énervé qu'il retrouve un peu plus tard, Gare Saint-Lazare. Alors voilà, ça ressemble à rien. Je veux dire, c'est à peine une histoire, mais l'objectif que s'est fixé Queneau, c'est de raconter la même anecdote, la même histoire, de 99 façons différentes. Et voilà, et c'est de là que, en fait, le plaisir et le rire naissent de la contrainte. Et voilà, alors il y a plein de façons différentes, onomatopées, voilà, sur la plateforme, pla pla pla, d'un autobus, tof tof tof, etc. Bon, moi, ça me fait mourir de rire.
Alors, les exercices de style de Raymond Queneau, disponibles en poche chez Folio. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous appelez d'où?
J'appelle de Bretagne.
Bon.
Une ville qui s'appelle Bru.
Bru, d'accord. Et alors, il y a un auteur qui vous fait marrer, hein, on peut le dire,
oui.
C'est Terry
oui,
Pratchett.
Oui. Absolument.
Qui est un auteur britannique.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez Terry Pratchett? On peut citer, par exemple, les Annales du Disque Monde, hein, c'est une série de romans. Qu'est-ce qui vous plaît chez Terry Pratchett?
Alors, qu'est-ce qui me plaît? Énormément de choses. Son humour décalé. L'expression de l'humour, les histoires qu'il raconte avec des personnages forts qui sont intéressants, sa description d'un monde qui n'existe pas qui existe mais ailleurs, qui est une terre totalement plate supportée par quatre éléphants qui sont juchés sur une tortue qui navigue dans l'espace. Voilà, donc ça c'est la description du Disque Monde. Et là-dedans, il y a tout un échantillon d'humanité qui se débrouille pour vivre comme on fait nous. Et il nous raconte tout ça avec une verve remarquable. C'est très drôle, c'est très actif, c'est très vivant. Et puis il a des expressions extraordinaires, quoi. J'aime beaucoup le genre de truc. Si je peux permettre des petites citations.
Allez-y, faites-vous plaisir.
Alors, l'ennui quand on apprend à ses dépens, c'est qu'on a droit qu'à une leçon. Moi que j'aime bien. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé.
C'est pas mal ça. C'est pas
ouais.
mal.
C'est pas je, mal. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis.
Et vous, Daniel, quand ça va, voilà, quand il y a un petit coup de déprime, un petit coup de mou, vous allez spontanément plutôt vers des livres qui font rire ou sourire, ou plutôt vers des ouvrages qui, accompagnent votre vague à l'âme. Qu'est-ce que voilà.
Quand j'ai vraiment le coup de mou, je vais pas lire un livre drôle parce que c'est à ce moment-là on les apprécie un petit peu moins, je trouve.
Je suis voilà. un peu d'accord avec vous. Je suis
voilà.
un peu d'accord avec vous.
Donc là, je vais plutôt vers de l'ouvrage sérieux, d'histoire, etc. Par contre, quand c'est entre gris et gris bleu, là oui, il faut lire un livre. Faut lire des livres réjouissants. Votre liste est très bien. J'en ai lu la plupart.
Mais...
Excellent choix.
C'est gentil à vous. C'est une liste disponible sur notre page Facebook et sur le site de Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé de Bru en Bretagne. Alors, Baptiste Liger, pourquoi oui. est-il recommandé de lire Idées Noires de Franquin, Quand on broie du noir, un classique de la BD publié chez Fluide Glacial qui traite notamment de la mort et de la bêtise humaine. À l'âge de 53 ans, Franquin est au sommet de son art. Il est déprimé et il a fait un infarctus quelques mois avant la parution de ses Idées Noires.
Absolument, donc on connaissait évidemment la face solaire de Franquin, Gaston Lagaffe, etc. Et là on découvre son côté obscur, car comme vous l'avez justement rappelé, c'est un moment où il va pas très bien dans sa vie, où il est profondément torturé, et justement ce mal-être, il l'a quand même transcendé dans sa créativité, et c'est en cela où Idées Noires est un livre absolument, et une œuvre absolument magistrale. Non seulement pour, j'allais dire, son graphisme, parce qu'on découvre une autre forme graphique chez Franquin, un noir et blanc incroyablement maîtrisé, qui joue beaucoup avec les contrastes et qui montre des personnages en ombre très noirs. Et j'allais dire, formellement, c'est une œuvre très impressionnante, mais en même temps pour une maîtrise de narration incroyable. Ce sont de très petits contes d'une cruauté saisissante et d'une efficacité imparable.
Et qui ne sont pas déprimantes.
Mais c'est ça, enfin voilà, parce que c'est fondamentalement très drôle si on aime l'humour noir. Par exemple, un des plus célèbres, c'est un type qui se retrouve être condamné à mort parce que tout individu qui en tue un autre volontairement aura la tête tranchée. Donc ce type est condamné, il est guillotiné, mais qu'est-ce qui se passe pour son bureau, pour son bourreau, pardon, on lui tape sur l'épaule et on lui rappelle la loi et on voit à la fin toute une série de guillotines qui se suivent. C'est absurde et c'est très drôle. Ou bien encore un type qui est un monsieur qui est décédé, voilà, on ne sait pas quoi faire de son chien et le chien n'a pas de chance puisque sa balle tombe dans le cercueil et on enferme le cercueil et là on voit le chien à la fin en train de pleurer sur la tombe. On dit oh mon Dieu quelle fidélité ce chien qui aimait à ce point son maître et on a le songe du chien en disant mais quand est-ce qu'on va me rendre ma baballe. Voilà.
Idée noire de Franquin, c'est disponible chez Fluide Glacial. Christine Siméon, sourions un peu avec Vive le meilleur des mondes de Philippe Chambon et le dessinateur Wozniak. C'est publié chez Eubek. Alors Philippe Chambon est ancien rédacteur en chef chez Science et Vie et nous raconte avec humour les dangers des découvertes récentes dans plein de domaines scientifiques.
Oui, parce que c'est Vive le meilleur des mondes, hyper technologique et robotisé. Et effectivement, donc il passe en revue quelques inventions qui ont cours ou qui sont en train de se développer sous nos yeux. Et alors, en fait, ce n'est pas un enchanteur, Philippe Chambon, c'est un déchanteur. C'est-à-dire que chacune de ces chroniques là est présentée comme si ça allait être la nouvelle merveille du monde, etc. Et puis ça se finit en eau de boudin, par exemple sur les... Il y a une chronique qui s'appelle Hors sol, sur le fait de... Vous savez, désormais on peut faire des tours et puis qui sont quasi autonomes, où on cultive, enfin on peut vivre là-dedans en autarcie, etc. Et juste à la fin, il rappelle que pour que ça existe, il faut des milliers de tonnes d'eau. On ne peut pas recréer un écosystème naturel comme ça, donc ça ne peut pas être écologique. Et à côté de ça, ce qui me fait vraiment marrer, en fait, sont les dessins de Wozniak, les illustrations.
Wozniak, dessinateur du canard enchaîné.
Dessinateur du canard, effectivement, et qui est vraiment hyper talentueux, mais ça, j'ai pas besoin de le dire. Par contre, j'ai besoin de vous raconter Wozniak invente l'aspirateur à rayons de soleil dans ses dessins, notamment le musée du chômage. Hommage au sujet d'une chronique sur la robotisation et sur le développement des robots. Des petits bonhommes comme ça, dont les fleurs poussent sur la tête. Voilà, c'est plein de moments vraiment rigolos. Je pense aussi à la culture des nuages, avec le cheval et la charrue, comme il se doit. Donc voilà, ça c'est le meilleur des mondes de Wozniak.
Vive le meilleur des mondes, c'est évidemment une référence au livre de Huxley. Vive le meilleur des mondes de Philippe Chambon et le dessinateur Wozniak. Bonjour Pascal.
La petite mamie et son petit-fils qui...
Bonjour Pascal, est-ce que vous m'entendez Pascal? Pascal,
des...
est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
Bonjour, vous appelez de Nantes?
Tout à fait.
Alors vous avez une prédilection pour Anna Gavalda et Fred Vargas qui vous font plutôt sourire.
Alors oui, Fred Vargas beaucoup. Je trouve que c'est formidable d'avoir trouvé comment assembler des personnages qui ont a priori plein de tares, plein de difficultés, des gens qu'on pourrait regarder avec condescendance dans la vraie vie, et que ensemble, c'est des gens qui vont nous montrer une façon poétique de voir les choses les plus noires, les plus sinistres, nous amener à les regarder avec tendresse, avec poésie, avec indulgence et avec drôlerie, la façon dont elle croque chaque personnage, aussi petit, aussi insignifiant soit-il, dans Pars vite et reviens tard à propos de la peste. Chaque personnage est plein de truculence, de complexité, de douceur, et à la fois on se dit, voilà, on peut être soi avec tout ce que ça a de pathétique et d'amusant et de beau.
En tout cas, on sent le sourire dans votre voix, Pascal. Ouais,
c'est un auteur que j'ai découvert un jour complètement par hasard. Et j'ai tout lu.
Alors, je ne sais pas si vous avez lu le dernier, ça s'appelle « Quand sort la recluse ». En tout cas, ça a fait sourire Ilana Mor-Youssef, hein, « Quand sort la recluse », publié chez Flammarion.
Oui, alors, a priori, ça n'a rien de drôle, parce que c'est quand même une histoire de viol en réunion et de choses épouvantables. Et en même temps, chez Fred Vargas, en fait, on ne la lit pas tellement pour l'intrigue, on la lit pour tout le travail qu'elle fait sur la langue. Et elle m'a expliqué à cette occasion que, en fait, elle n'écrit pas des romans noirs qui font peur. C'est pas elle, et elle dit en fait je me bride pour pas mettre trop d'humour parce que du coup sinon je rate complètement mes effets. Mais mes livres ne sont pas des livres où on a peur. Ce sont des livres où on sourit et où on se sent bien parce que justement ce que disait très bien cette dame au téléphone Pascal, c'est que elle crée tout un microcosme qu'on a plaisir à retrouver et dans lequel on se sent bien, on se sent pas agressé.
Marie Sauvion.
Mais oui, c'est la reine de la bizarrerie. Et donc, on se sent comme chez soi au 36 en retrouvant à chaque livre Adamsberg, Danglars, etc. Et alors, le vrai suspense de Quand sort la recluse, par exemple, c'est la dispute entre Adamsberg et Danglars. Donc, c'est son fidèle adjoint. Ils sont vraiment cul et chemise depuis le début. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Danglars trahit son ami et patron. Et donc, l'explication, c'est qu'il a, il est devenu con. Mais il a un accès de connerie. Pardon, je reprends les termes de Fred Vargas, mais il a un accès de connerie, comme on aurait un accès de fièvre. Donc, il va falloir le soigner. Je vous laisse découvrir la méthode.
Christine Appelé-Douelle.
Oui, il y a quelque chose à propos de Fred Vargas, mais qui est vrai pour tous les auteurs dont on parle là aujourd'hui. C'est la langue. C'est vraiment le travail de l'écriture, parce que sans ça, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Enfin, c'est pas drôle. Et c'est le centre même n'est pas rigolo qui veut. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est le mal de chien qu'on a eu tous, autant que nous sommes ici, à trouver des livres vraiment drôles. Parce que il suffit pas d'aligner trois blagues carambars pour être hilarant, quoi.
Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir appelé depuis Nantes, 01 45 24 7000, pour nous faire partager les livres qui vous font rire ou sourire dans tous les genres. Vous pouvez retrouver cette sélection de livres sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur l'appli France Inter et sur franceinter.fr. À suivre, la fausse pub de François Audre.
of assault and the party came to a grinding halt. They took the midgets and the freakies with the girls in tow. And a voice said, Lewis, it's time to go. They put my neck on the block, they took off my wig, and it occurred to me this was the end of the gig. They asked me, did I have any last words to say? Well, I raised my head and I hollered, hey! Make that my mark.
You can be sure about one thing. Ooh la la, ooh yes, it's good to be the king.
Well, it was good while it lasted.
We can be sure about one thing. Ooh la la, maybe it's good to be the king.
It's good to be the king.
Mel Brooks, it's good to be a king. The king.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Envie de détente et de rire après cette élection présidentielle riche en émotions? Retrouvez l'intégrale des livres programmes des candidats battus à la magistrature suprême et leurs mesures phares qui ne seront jamais appliquées, enfin éditées dans la Pléiade. Avec « Faire » de François Fillon, qui nous expliquait comment redresser la France en se serrant la ceinture, sauf celles qui maintiennent des costumes à 6000 euros. Retrouvez également « L'avenir en commun » de Jean-Luc Mélenchon, qui nous parle surtout du sien en torpillant celui du PS. Et bien sûr, vous rirez à chaque ligne du programme économique de Marine Le Pen avec son retour à l'écu adossé au cours du sesterce pour une souveraineté monétaire forte comme au Moyen-Âge. L'intégrale des livres-programmes des candidats battus à l'élection présidentielle édités dans la Pléiade, des propositions saugrenues et hilarantes qui ne verront jamais le jour. Attention, il est déconseillé de lire dans la foulée Révolution d'Emmanuel Macron sous peine de voir se dissiper tous les effets positifs de votre lecture.
La fausse pub du vendredi de François Audouin avec la voix d'Éric Oswald, 10h43. Et ce matin, je vous propose une sélection d'ouvrages qui font du bien et qui font rire, voire sourire, avec les journalistes Christine Lapelle-Edouel, Ilana Mor-Youssef, Baptiste Liger et Christine Siméon, et Éric Libio en duplex de Cannes, qui se morfond sans nous, hein, loin du studio.
Je pleure loin de vous, Annie,
alors, Éric Libio, il y a une série de romans qui vous font rire, et Dieu sait si c'est difficile. C'est la série des Wilt qui raconte la vie quotidienne assez loufoque d'un professeur de culture générale, c'est ça?
Oui.
Il y en a 4 ou 5, c'est ça, des Wilt?
Oui, c'est ça, il y a toute une série, mais c'est en général les romans de Tom Sharp, qui est un grand satiriste anglais né en Angleterre, qui a longtemps vécu en Afrique du Sud, dont sa mère était originaire, pendant l'apartheid, dans les années 70-80, enfin 60-70-80, et qui évidemment, à travers ses livres, tire à boulet rouge sur le racisme, le conservatisme, et cette chose horrible qu'est l'apartheid, avec une drôlerie, d'une méchanceté. C'est dans la grande tradition des satiristes anglais, et sans doute plus que Witt. Alors il y a deux romans, évidemment que la politique sud-africaine, si je puis dire, pour un satiriste anglais, c'est du pain béni. Et il y a deux romans, Mêlée ouverte à Zooland, qui est un grand moment, et Outrage public à la pudeur. Mais je voudrais aussi conseiller, effectivement, oui, vous l'avez dit, mais également un roman sur l'éducation anglaise et sur ses collège extrêmement bien mis en Angleterre, qui s'appelle Porterhouse. Et il faut lire le passage où ce collège anglais très stylé, avec la pelouse coupée au ciseau, explose grâce à des préservatifs remplis de gaz. C'est absolument c'est un moment d'hilarité formidable, et en plus voilà, Sharp avait un talent d'écrivain et encore une fois de satiriste où la critique de la société et l'humour se mélangeaient à la méchanceté.
Et sur la série des Wilt, qui existent en poche, et 10-18, vous les conseillez?
Pardon?
Les Wilt, vous les conseillez, disponibles en poche?
Mais Ali, si vous les conseillez, je les conseille aussi.
Non mais vous, je vous demande si vous les conseillez.
Non mais évidemment, mais moi Top Sharp, je conseille absolument tout. J'ai une petite préférence pour Porterhouse et Mêlée ouverte, mais les Wilt, effectivement, c'est parfois on dirait un peu une certaine écriture américaine dans le romanesque et dans la façon de voir la société qui se rapproche de grands écrivains américain contemporain, mais il y a toujours, parce que il est anglais jusqu'au bout des ongles, Sharp, un recul, une ironie, une férocité qui est absolument absolument charmante.
Baptiste Liget sur Tom Sharp, comparé par la quinzaine littéraire à le moraliste violemment drôle et salubrement grossier.
Je pense que la meilleure façon de convaincre nos auditeurs de découvrir Tom Sharp, c'est de citer un ou deux titres de la série des Wilt. Par exemple, comment se débarrasser d'un crocodile, de terroristes et d'une jeune fille au pair, ou bien encore, comment échapper à sa femme et ses quadruplés en épousant une théorie marxiste. Ça, je veux dire, rien que des titres comme ça, ça fait envie.
Écoutez, moi je conseille en tout cas Wilt 1, que j'ai commencé à lire en 10-18, et c'est signé Tom Sharp. Alors toujours dans le genre humour british, Baptiste Liget, vous avez choisi l'indémodable Thérapie de David Lodge, disponible chez Rivage. C'est une bonne thérapie par l'humour quand on a
absolument
le moral dans les chaussettes.
Mais comme j'ai pris thérapie, mais plus généralement, c'est une thérapie. David Lodge, on peut lire tous ses autres livres. Un tout petit monde, c'est très bien. Les Nouvelles du Paradis ou bien encore La Vie en sourdine, j'en passe. Au-delà de thérapie, ce qui est assez amusant, c'est cet humour drôle et amer en même
l'humour
temps.
L'humour, c'est souvent drôle.
Oui, mais bien sûr. Non, mais je veux dire
pas pour tout le monde.
Encore une fois, il peut y avoir quelque chose d'assez jubilatoire et en même temps sans nier une certaine amertume. Mais on évoquait tout à l'heure la dépression dans Idées Noires. Là aussi, c'est un équilibre entre les deux très subtil, doublé d'une véritable satire sociale, de la crise, j'allais dire, d'un homme qui, évidemment, au fil du temps, va vieillir et qui, enfin voilà, dans chaque livre évolue un petit peu chez David Lodge. Dans certains livres, sa critique universitaire, enfin de l'université, est un régal. Là, dans Thérapie, on a aussi celle de la télévision à travers ce scénariste de sitcom. Il y a aussi cette présence de l'amour. Il y a le sport. Il y a toujours des passages sur le sport très étonnants et il mêle tout ça avec une grande subtilité. On peut être même vraiment ému par moments et avoir de vrais éclats de rire chez Lodge. Et Thérapie, pour moi, c'est un de mes préférés, mais on peut vraiment prendre n'importe quel livre dans son œuvre. C'est toujours très, très enrichissant, drôle et émouvant en même temps.
Tous les romans de David Lodge sont disponibles chez Rivage Poche. Christine Siméone, un ouvrage qui vous fait rire.
Récent, fait rire, qui est méchant.
Cher monstre. De Stefano Beni chez Actes Sud.
Oui, c'est un auteur italien que je suis depuis quelques années, en fait, et qui l'a...
Ça vous plaît, ça, la méchanceté, hein ?
J'adore ça. Et qui publie là un recueil de nouvelles, en fait. Et voilà, c'est plein d'histoires où l'on trouve des choses tout à fait étonnantes, surréalistes. Ça s'ouvre notamment sur une histoire d'un monsieur qui finit par acheter dans une animalerie un chien à tête de poisson qui se révèle avoir des pouvoirs tout à fait surprenants. Et puis, il y a d'autres histoires qui nous rappellent un peu plus notre quotidien. Alors, vous avez notamment le type qui, tout d'un coup, se retrouve coupé du monde et complètement déconnecté. Plus rien ne marche, son ordinateur ne marche pas, son téléphone est en panne, le distributeur de billets à la banque ne marche pas, la ville est vide, et pourquoi ? Et je ne vous dirai pas pourquoi. Il y a des choses extrêmement cruelles, parce qu'il a notamment repris le conte de Grimm, Hansel et Gretel, qu'il appelle Hansel et Gretel 2.0. Alors là, ce sont des gamins, le papa est pauvre, effectivement, bûcheron, et voilà. Et ses enfants sont terriblement affamés, parce qu'ils mangent beaucoup et leur père n'arrive pas à les satisfaire. Ils sont aussi affamés de technologie et leur père leur interdit toute technologie. Et bon, ils finissent donc, le papa finit comme dans le conte par les perdre dans la forêt. Il tombe entre les mains d'une pédophile et ça se finit comme dans le conte de Grimm, c'est-à-dire il rentre à la maison riche avec une caisse pleine d'écrans, de tablettes, etc. Ouais, papa, on est riche. Est-ce que je spoil la fin ?
Non. Voilà. Christine Siméone, enfin.
Donc, je ne dis rien.
Mais elle est cruelle, j'imagine.
Je n'en dis pas plus.
Et méchante.
Mais vous serez surpris par les enfants.
Cher monstre de Stefano Beni, humour noir, donc.
Humour vache,
chez Actes Sud. Christine Appeledouel.
Yes.
La vie au grand air de Rézère, publié chez Glénat, ça vous fait marrer à tous les coups. Et je l'ai constaté, vous l'avez ouvert là, hors antenne. Et tout de suite.
Non mais Reiser, il faut bien le dire, c'est un génie injustement mis de côté. D'ailleurs, on en parle moins.
Oh.
On en parle moins. Et La vie au grand air, bon, alors rappelons vite fait, hein, tout le monde quand même sait qui est Reiser, enfin j'espère, c'est un des fondateurs de Charlie, et de Harakiri. C'est un génie, voilà, un génie mort, génie du dessin et de l'humour, mort beaucoup trop tôt parce qu'il est mort à l'âge de 42 ans, je crois. C'était le grand copain de Cabu, de Cavana, enfin toute cette bande qu'on a tellement adorée et qu'on continue à adorer. Et alors, La vie au grand air.
Mais c'est génial.
Mais c'est un chef-d'œuvre. Alors, c'est très difficile d'en parler. En fait, c'est un défi parce que il n'y a pas de parole. Voilà. Alors, La vie au grand air, c'est la vie dans une Afrique complètement dingue, complètement fantasmée, imaginée par Reiser et avec des situations absolument invraisemblables. Alors, je vous donne un exemple. Alors, évidemment, c'est toujours super méchant. C'est toujours extrêmement drôle et c'est toujours très grinçant. Bon, c'est l'humour Harakiri, l'humour Charlie. Hein. Alors, il y a une page que j'adore, mais on peut prendre n'importe laquelle. Et Ali, je vous ai pris en flagrant délire de rigolade aussi, qui s'intitule « La vengeance des molaires ». Déjà, rien que le titre, c'est la même chose. Moi, ça me fait rire. On voit un gros type énorme. Alors, ils sont tous tout nus hein, parce qu'ils vivent au grand air. Il est énorme. Il est devant un petit rikiki qui se marre et qui le regarde en le pointant du doigt. L'autre, évidemment, est furieux. Lui donne un coup de poing, une mandale, deux mandales, et les dents sautent, les molaires sautent au fur et à mesure sur la page. Et à la fin, le gros part. Alors, le petit, il est complètement ratatiné, il n'a plus de dents, il saigne, il a le nez explosé. Et le gros part sur la pointe des pieds en ayant très mal parce qu'il se pique les pieds sur chaque molaire qui est tombé au sol. Et le petit est vengé. Bon, c'est juste un exemple, mais vous pouvez les tourner tous, c'est vraiment génial. Je peux dire quand même encore un mot. Il y a un truc génial, c'est la manière dont un des personnages se fait des chaussons dans les narines d'hippopotame. Je n'en dis pas plus, mais rien que l'idée, voilà, c'est du pur génie.
La vie au grand air de Reiser, publié chez Glénat. Marie Sauvion, autre génie, hein, vous êtes comme moi, un album de Sempé et ça repart.
Ah mais depuis l'enfance, depuis le petit Nicolas, et ça n'a jamais cessé. Alors déjà quand vous prenez les titres de ces albums, rien n'est simple en 62, tout se complique en 63, sauf qui peut en 64, et ça continue comme ça. Je crois que le dernier que j'ai acheté s'appelait Sincères Amitiés en 2015. Je voudrais juste décrire une vignette, parce que l'humour méchant dont vous parlez, mais ça marche à fond, j'adore ça, et je suis très fan de Reiser, mais moi j'ai besoin de lutter contre ma misanthropie. Et Sempé m'aide. Sempé me fait devenir meilleur, je le sens. Et cette image, alors c'est une manif à la Sempé, donc merveilleusement croquée. Et voilà, des gens qui protestent, assez d'impôts, contre la taxe, non au machin, etc. Et il y a un tout petit bonhomme, parce qu'ils sont toujours tout petits, les bons hommes, qui passe à côté, qui est tout seul en marge, avec sa petite pancarte. Et sur la petite pancarte, il y a marqué « J'ai mal partout ». Et moi, Sempé me réconcilie avec l'humanité.
Relisez tous Sempé, je suis absolument d'accord avec vous. Marie Sauvion, bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Alors, vous appelez de Saint-Jean-Saverne, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est en Alsace, oui.
Alors, il y a un ouvrage qui vous fait du bien.
Alors, il y a un ouvrage qui me fait du bien, qu'on m'a offert quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 63, vous voyez, donc ça date déjà, que je relis de temps à autre. C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Mm-hmm.
Pourquoi est-ce que... Voilà, quel est l'humour de d'Albert Cohen, d'ailleurs, dans Belle du Seigneur ? Il ressemble à quoi ?
Écoutez, ce que j'aime beaucoup, c'est certains passages qui me reviennent et que je relis régulièrement à des gens que j'aime beaucoup, notamment la scène de séduction de K.A. Solal, par exemple, quand il se présente devant celle qu'il aime et qui vient habillé en vieillard, et puis qu'à la fin, il lui dit « je vous séduirai de la pire des façons ». Et qui lui évoque un peu la façon dont il va le séduire en comparant les hommes à des babouins. Alors donc, il lui explique toutes les façons qu'il pourrait avoir de la séduire. Évidemment, elle cède, quoi.
Christine Siméon. Elle voulait réagir, pardon, Christine Siméon, à ce que vous disiez.
Mais non, mais ça m'a fait juste penser à un livre qui m'a sauvé la vie. En fait, c'était la trilogie de Pénac, en fait. Que j'ai découvert à un moment d'accident de voiture, très compliqué, etc., et qui m'a vraiment sauvée. Et ça me fait souvenir que quand j'ai lu « Ils m'ont menti » récemment, là, quand il est sorti, bah, du coup, j'ai ri de bonheur de retrouver cet instinct de survie, en fait.
Ilana Mor-Youssef.
Juste un mot, oui, pour dire que Daniel a absolument raison et que le ressort comique de l'œuvre de Cohen est trop méconnu. Et toujours dans Belle du Seigneur, il y a cette scène extraordinaire où ils sont à la SDN, la scène des babouins, justement.
Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé. On n'a même pas le temps d'évoquer. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé d'Alsace. Et on n'a pas le temps d'évoquer les quelques classiques que vous conseillez. Mais vous, Baptiste Liger, Bouvard et Pécuchet, de Flaubert.
Oh, bah, bien sûr, évidemment.
Ilan Amour-Youssef.
Bah, moi, j'avais mis Les Valeureux d'Albert Cohen, vous voyez.
Chrissy Lapelle-Edouelle.
Oh, bah, Jérôme K. Jérôme, Trois hommes dans un bateau. Un bateau.
Ça, c'est autre chose.
Et Wolf, Scoop.
Et vous, Christine Siméon,
moi,
un classique.
C'était Réveillon de Pierre Méraud, qui est un livre.
C'est pas un classique.
Pas un classique, mais... pas encore, le deviendra-t-il peut-être, en tout cas il est très récent, et voilà, c'est surréaliste, c'est drôle, et ça, l'auteur se moque de lui-même tout en se moquant du lecteur, j'adore ça.
Très bien, merci à tous d'être venus ce matin, Baptiste Liger, Ilan Amour-Youssef, Christina Pelledouelle et Christine Siméon. À suivre tout de suite la petite mythologie d'un objet du quotidien d'Éric Libiot de L'Express. Alors Éric Libiot, dans votre petite mythologie ce matin, il est question de palmes.
Et oui Ali, parce qu'il faut savoir tourner la page, mais il faut savoir également retourner à la plage. C'est l'époque des grandes manœuvres qui consistent à se rendre à la cave ou au grenier, fouiller dans les cartons endormis depuis un an pour y trouver ces objets saisonniers et estivaux qui font le bonheur des futurs vacanciers. Et puisque le Festival de Cannes tire bientôt sa révérence dimanche, il va être évidemment question de palmes, mais aussi de masques et de tubas, la sainte trinité du petit baigneur. Je rappelle que les palmes permettent d'avancer plus vite grâce à une très jolie ondulation du corps, ce qui vous va très bien, Aline, ne dites pas non, je le sais. Le tuba permet, lui, de respirer tout le temps en nageant hors de l'eau ou dans l'eau. Quant au masque, il permet de garder les yeux ouverts pour observer les petits poissons. C'était le point info consommation. La randonnée aquatique, dite également la randonnée PMT, PMT pour palme, masque, tuba, est aussi appelée le snorkeling, à ne pas confondre avec le storytelling, qui est l'art de raconter des histoires, procédé bien commode en ces temps où la communication a remplacé l'information. Et pourtant, le snorkeling ou la randonnée PMT raconte bien aussi une histoire d'aujourd'hui et on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on fait ses valises pour aller à Porspoder, un charmant petit village finistérien à une trentaine de kilomètres de Brest. Car c'est tout de même paradoxal que palmes, tuba et masques servent à garder la tête sous l'eau pendant les vacances, alors que toute l'année, justement, on a aussi eu la tête sous l'eau à force de travailler plus pour ne pas forcément gagner plus, à croire qu'on ne peut pas se passer de la panoplie du petit baigneur. On aurait donc tort de réserver ce triumvirat palme, tuba, masque aux seules joies estivales. Ce qui faisait partie jusqu'à présent de la mythologie du vacancier finit par aussi déborder au boulot. Tout se confond, tout se fond, selon le travail que vous faites, il n'est pas rare à l'époque actuelle que vous soyez joignable partout et donc joint pendant les vacances afin de régler un problème qu'un camarade de bureau ne saura pas résoudre. Personne n'est indispensable, mais si tu pouvais filer un coup de main pour que monsieur de Messmaker signe enfin ce contrat à la con, ce serait bien, même si tu es en train de te baigner à Trégana, une jolie plage aux abords de Brest. D'où cette réflexion, il faudrait peut-être arriver au bureau pendant l'année avec palme, masque et tuba pour résister à la pression et garder la tête sous l'eau sans dommage collatéral. Portez donc des palmes pour avancer plus rapidement sans forcer. Mettez un tuba dans la bouche afin de respirer dans n'importe quelle situation, notamment sous une montagne de dossiers à traiter. Et n'hésitez pas à porter un masque qui permet d'afficher un si doux visage derrière des traits très, 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 très tirés. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est sans doute aussi un peu la vérité de l'époque. Plus rien n'est étanche aujourd'hui entre vie privée et vie publique, entre boulot et vacances, entre plage et bureau. Et voilà le petit baigneur transformé en petit travailleur. Et voilà aussi la randonnée estivale PMT, palme, masque, tuba, transformée pendant l'année en randonnée professionnelle PMT, portable, mail, téléphone. On a décidément la petite mythologie qu'on mérite.
Merci beaucoup Éric Libiot de L'Express. Lundi, on s'intéresse aux bienfaits de l'hypnose en partenariat avec le mensuel Ça m'intéresse. L'hypnose vous a-t-elle été utile pour arrêter de fumer, apaiser des douleurs ou bien gérer votre stress? N'hésitez pas à nous contacter. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Élise Christophe et Patrick Henry. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. À suivre, Nagui et sa bande originale.